Nous avons le plaisir maintenant de recevoir dans nos studios Fabien, qui vient de Saint-Gaudens, puisqu'il est en procès pour refus du fichage ADN. Alors on va commencer par revenir sur les faits. Ça s'est passé le 14 novembre dernier, alors que tu étais sur une table pour informer des méfaits du compteur Linky. Tu as été arrêté.
Voilà, c'est une table, c'était le 16 novembre. Donc moi je suis militant libertaire, militant sur pas mal de causes. Là c'était sur la question du compteur électrique Linky, donc on informait juste les gens. Et là une brigade de police est arrivée, donc m'a embarqué et voilà, j'ai fini en garde à vue sur Saint-Gaudens pour une demande explicite de prélèvement ADN. Donc un prélèvement que j'ai refusé, dès lors j'ai fait 7 heures de garde à vue. Et après, j'ai été libéré en fin de journée, sûrement grâce au soutien qu'il y a eu au niveau militant, c'est-à-dire les syndicats qui ont directement fait un communiqué. Il y a eu un rassemblement devant le commissariat qui a permis que je sorte peut-être un peu plus tôt, éviter de passer la nuit en garde à vue. Donc voilà, je suis passé ensuite devant le procureur qui m'a signifié que j'avais un procès le 1er mars 2018 à venir à partir de 14h pour le motif du refus du fichage ADN.
Que tu as été arrêté par la police pour des faits qui revenaient à un an. C'était pour une autre affaire,
ouais,
en fait.
Ouais. En fait, le fichage ADN, maintenant, c'est un truc qui se généralise vachement. Au début, c'était quelque chose qui était seulement à destination des délits à caractère sexuel ou des infractions criminelles. Maintenant, c'est pour à peu près plus de 140 délits, donc qui concernent beaucoup, beaucoup de monde. On peut se faire ficher en garde à vue, même si on est juste soupçonné. On peut se faire ficher dans la rue. Voilà, pour des collectes générales ou collectives. On peut se faire ficher aussi quand, dans mon cas, moi j'ai été condamné à une peine avec sursis. C'était un peu plus d'un an plus tôt sur Toulouse, donc une arrestation en marge des manifestations loi travail, dans cette espèce de climat un peu tendu avec les flics très, très nerveux, donc une arrestation d'un sans-abri auquel je me suis interposé, donc c'est un peu parti en steak, et puis je me suis retrouvé en procès un mois plus tard, et j'ai pris du sursis, voilà, sur une cause assez bête, en fait, voilà, c'est parti en... un peu dans tous les sens. J'ai pris une radio portative, je suis parti avec pendant quelques secondes pour faire diversion. Voilà, j'ai pris, le dossier a été bien rempli par la police, avec des violences, etc. Tout le truc habituel, les outrages, tout qui peut charger le dossier. Et puis j'ai pris un mois avec sursis pour la question du vol, et j'ai été relaxé par le reste. Et donc le fichage ADN, ça concerne n'importe quoi, un tag, un vol, l'objectif c'est de ficher le plus de monde possible dans une optique de contrôle social total.
Ce qui est mystérieux, c'est que du coup, ils avaient été coordonnés, donc sur le coup, on ne t'a pas demandé le fichage ADN, mais ils sont venus te chercher lors de cette table d'information. Un an plus tard, en fait.
En fait, le parquet de Toulouse avait un an pour demander mon ADN. Suite à un procès, on a un an. Moi, j'ai été jugé en juin. J'ai été attrapé en novembre, là. Donc, ça fait un an et demi. Et j'avais un avis de recherche qui pesait sur moi depuis à peu près 5 mois. Donc, voilà, c'est du dangereux terroriste qu'on recherche activement pour ficher son ADN. Et donc ils ont mis quelques mois à me trouver. Bon, ils m'ont trouvé déjà un peu avant dans les manifestations où j'apparais, dans l'étape d'information. Donc voilà, ils voient que je milite, il y a peut-être il y a des volontés aussi de museler les gens qui s'opposent.
Mais alors du coup, on te cherche pour faire ce prélèvement ADN, normalement c'est valable qu'un an après le procès. Là tu dis ça fait un an et quelques mois.
Ouais. Non mais c'est valable, étant donné que la demande a été faite dans les un an. Après, le temps que la police de tout le comté me trouve, voilà, ça s'est passé comme ça.
Alors pour revenir sur ce fichier national automatisé des empreintes génériques, il existe depuis 98, tu l'as dit tout à l'heure, au début il était surtout utilisé pour les crimes sexuels et les tueurs en série, et puis au fil des lois, au fil des années, il a été étendu, et en fait aujourd'hui il n'y a que les délits routiers et financiers qui sont exclus.
Sinon, les délits de riches, ouais, sont exclus, évidemment. C'est justice de classe, donc on essaye de ficher la totalité de la population. On ne va pas ficher les individus pleins de thunes, ça c'est normal, quoi.
Donc du coup, ça concerne quand même beaucoup de gens, et en 2016, il y avait plus de 3 400 000 profils qui étaient enregistrés. Mmh. Et de ce que j'ai pu lire, il y a à peu près 73 000 profils qui ont servi vraiment dans des affaires. Mmh. Donc ces données-là, elles peuvent être conservées de 25 jusqu'à 40 ans. Mmh.
C'est voilà. Ça.
Donc la seule raison pour laquelle elles ne sont pas conservées, c'est si la personne est décédée en fait.
C'est ça.
Voilà.
Et pour faire effacer ces données, c'est d'une galère pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un peut passer en garde à vue, être juste soupçonné, ne pas avoir de condamnation. Après, pour faire effacer les données du fichage, c'est une galère pas possible et c'est la justice qui décide. Donc c'est des choses qui font que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, c'est le 22 juin dernier, l'État français pour ces questions d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, sur la question de la durée du maintien des conservations des ADN pour tout le monde, sur la question du fait qu'il n'y a pas de différenciation au niveau des délits, au niveau de l'infraction et de la gravité. Moi, je considère que mon délit, c'est de la merde, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu du vent, quoi. Et du coup, on vise quand même à te ficher, en fait. Mais l'optique de ce genre de fichage, ça a de valeur que s'ils arrivent à contrôler la totalité de la population. Ensuite, dès qu'il y a une affaire, dès qu'il y a quelque chose, les données sont étudiées et évidemment ton ADN aussi est étudié. Après, au niveau des informations, il y a aussi des trucs qui circulent, comme quoi un Français sur 6 serait concerné par le fichage, aurait serait fiché. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui sont fichées, c'est-à-dire les plus de 3 millions, je pense, qui sont déjà fichés, mais il y a aussi la famille, étant donné que les brins d'ADN sont les mêmes dans les familles. Donc s'il y a quelqu'un de ta famille qui est fiché, toi aussi, tu as de fortes chances d'avoir aussi ton ADN fiché, et on peut retracer la route jusqu'à toi, par ce biais-là.
Alors, en fait, ce procès, à ces faits qui datent d'un an, il avait déjà été réglé, puisque le jugement avait été déjà fait. Donc, sous quel prétexte, en fait, ils ont cherché à avoir ton ADN ? Je comprends pas bien, puisque ça apporte pas un complément d'information dans l'affaire, puisqu'elle est déjà bouclée.
Il n'y a aucun prétexte, il n'y a rien, c'est juste une volonté de ficher. Alors bon, il y a possibilité qu'il y ait une volonté de ficher des militants politiques, par exemple, comme ça a été mis en place, par exemple, pour les faucheurs volontaires, pour des gens qui ont lutté pour... Par exemple, il y a une personne, là, d'attaque, là, qui a participé à les questions de vol de chaises, là, dans les BNP, là, pour symboliser la fraude fiscale. Là, elle passera je crois que c'est le 6 février prochain, elle va passer pour ce vol en réunion, donc une cause bidon, et elle va passer aussi pour le refus du prélèvement ADN. Donc en fait, ce prélèvement ADN, c'est aussi, dans le biais des militants, on sait qu'il y a la possibilité qu'ils s'opposent, donc c'est une épée de Damoclès permanente, parce que c'est un fichage, enfin, c'est un procès qui est infini après. C'est-à-dire, je vais avoir mon procès le 1er mars, mais ils peuvent me demander à nouveau le fichage le lendemain, par exemple, pour une garde à vue, pour n'importe quoi. Et si tu le refuses, c'est un nouveau procès, donc c'est du sursis qui se transforme en ferme. Et au final... Il y a des gens qui ne peuvent pas refuser, c'est par exemple en prison, ça on n'a pas le droit de refuser. Nous on a encore la possibilité, quand t'es condamné ou quand pour quelques délits n'excédant pas les 10 ans de prison, où t'as la possibilité de refuser. Donc on prend le droit de refuser avant qu'on soit tous fichés, avant qu'on soit tombé dans cette espèce d'ordre social qu'on rejette.
Alors, pour revenir, pour dire un petit peu ce que c'est, un prélèvement ADN, ça consiste, c'est une petite, un petit...
C'est un coton-tige
dans
la bouche ou un buvard aussi.
Qu'on frotte dans la bouche,
c'est ça.
Prélever l'ensemble de ton ADN.
Ouais, c'est où ça. On est amené aussi des fois à cracher sur un buvard pour l'ADN, donc voilà, c'est quelque chose... C'est-à-dire qu'il y a de grosses corrélations entre des éléments, des généticiens, la police et les scientifiques sur ce biais-là. Et c'est quelque chose qu'on peut demander en garde à vue, pour n'importe quelle garde à vue. C'est-à-dire qu'il y a la fouille basique au tout début de la garde à vue, on t'enlève les lacets, la ceinture, on te notifie tes droits, et puis après, on te demande voilà, la signalétique, ton nom, etc. Et on peut demander... Souvent, on demande la photo, les empreintes digitales. Donc, on peut refuser, c'est un délit aussi de refuser. Et dans quelques cas aussi, on peut demander le prélèvement ADN, donc Alors au niveau de la peine encourue,
oui, voilà. Qu'est-ce que tu encours du coup dans ce cas-là?
Alors ce que j'encours, les peines maximales sont toujours énormes pour faire peur à la majorité des personnes. Donc c'est 1 an de prison et puis 15 000 euros d'amende pour le refus du prélèvement ADN. Après, ce qu'on encourt en réel, quand on est soutenu, militant, c'est des peines de 500 euros, voilà, 500 euros jusqu'à 2000 par exemple, ou souvent du sursis aussi, 2 mois, 1 mois avec sursis, 3 mois.
Ce qui est quand même embêtant, parce que si ça veut dire que tu vas avoir un casier et que donc tu ne peux pas accéder à certaines choses après.
Ah oui, c'est sûr, ça bloque. L'objectif, c'est de casser les gens. Il y a un militant sur Toulouse, un copain là qui a été déjà poursuivi 2 fois pour motif de refus du fichage ADN, donc il a chopé déjà des peines et il a 2 procès à venir en février et en mai pour la même cause. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être servi dès qu'on l'ouvre un peu trop. Souvent là il y a cette possibilité du prélèvement ADN qui est quelque chose d'infini quoi. Donc ouais, c'est vraiment une épée de Damoclès sur la tête. Dès que tu fais une action, dès que tu fais quelque chose, t'auras ça qui va venir. Après, c'est aussi quelque chose qui touche pas que les militants. Nous, on va beaucoup le baser sur la question de l'acharnement contre les militants, au niveau de la défense et au niveau de Saint-Gaudens. Étant donné que là, c'est arrivé sur une table Linky, il y a déjà eu du contrôle policier dans les manifs, c'est quelque chose qui se tend un peu. Mais après, les gens dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui font... Tu vends un petit ou une connerie comme ça, tu te fais ficher. Et ça, par contre, c'est des personnes qui sont plus isolées ou pas en lien avec des réseaux, etc. Elles peuvent prendre du ferme sur la question juste du refus du fichage ADN.
Oui, là, il n'y a pas forcément de soutien. Puis c'est difficile, du coup, quand on est accusé pour un fait notoire, du coup, ça, on a tendance à penser que ça peut aggraver son propre cas. Effectivement, je crois que si on a vraiment fait un délit, la peine est plus forte, en fait. La peine et l'amende.
Ça rajoute un sursis en plus ou une amende en plus. Voilà, c'est toujours. On essaye toujours de t'attraper par l'argent aussi. Après. Sur la question du fichage, c'est aussi en garde à vue. Moi, j'ai eu, comme d'habitude, la police essaye de te foutre la pression. Donc, bon, moi, c'était des insultes très politiques, sale gauchiste, anarchiste de merde, que des trucs un peu comme ça pour peut-être mettre la pression. Et puis après, la question du refus du prélèvement, voilà, il faut pouvoir l'assumer. C'est beaucoup de pression en face. C'est la police qui te dit, tu vas, ok, mais quand tu vas arriver à Seyss, en maison d'arrêt, ils vont te la prendre. Donc voilà, tu vas partir en préventive. Il y a toujours cette espèce de peur de la prison, cette façon de dire de toute façon on l'aura quoi que tu fasses. Donc après, voilà, c'est la malhonnêteté, mais c'est normal. En garde à vue, il n'y a aucune éthique. L'objectif, c'est arriver à leur fin.
Ils devraient. Normalement, ils sont obligés de respecter une certaine éthique.
Ouais, c'est compliqué. T'es tout seul en garde à vue, t'es séquestré. Moi les insultes et les propos injurieux, je peux pas les prouver en aucun cas. C'est quelque chose d'assez facile, ouais, on peut tout se permettre de l'autre côté, alors que nous toute parole est à charge ensuite. Donc l'important en garde à vue, je le répète, c'est de se taire, d'en dire le moins possible, parce que c'est un endroit où on peut pas se protéger. Le seul endroit pour se protéger, ça va être à son procès, ça va être avec son avocat. Donc voilà, faire appel à quand on se retrouve dans ces espaces de non-droit. Moi, je pense que ces espaces de non-droit, on a droit vraiment au minimum. On a droit d'appeler quelqu'un, on a droit à un médecin, on a droit à un avocat. Il faut prendre tous ses droits et se donner le droit aussi de se taire, parce que tout va servir ensuite. Même ne rien signer aussi, ne pas signer les PV de sortie. Signer, c'est accepter ce qui a été dit dans les auditions, dans les choses. Donc on peut faire annuler des fois des gardes à vue, on peut faire annuler des choses, prouver la nullité de certains gardes à vue en n'ayant pas signé, du coup.
Donc là, comment tu t'organises? T'as décidé, ou des personnes autour de toi ont décidé de mobiliser tout un comité de soutien, donc avec des organisations, enfin des syndicats, mais aussi juste des individus, c'est ça, et des associations?
Là, il y a un comité qui s'est... petit comité de soutien qui s'est créé juste après l'arrestation, donc avec une volonté de faire le soutien sur cette affaire, aussi de se former, de pouvoir prévenir d'éventuels futurs cas de répression. Voilà, c'est dans une vision dans sa continuité. Donc il y a un comité, donc il y a un communiqué unitaire qui a été signé par quelques organisations locales, c'est ATAC, c'est les CGT, Solidaires, le groupe anarchiste dans lequel je suis, c'est ça. Et des individus aussi qui sont affiliés à aucune organisation mais qui sont là en soutien.
Alors, je peux lire, il y a Résistance en Comminges et Solidaires Comminges.
C'est ça, donc les syndicats. Donc voilà, avec, il y a une adresse mail que je peux communiquer aussi. Voilà, si les gens ont envie d'avoir des informations ou de communiquer du soutien, c'est col.resistance avec un s.comminges@laposte.net. Les informations, après, sont, on peut trouver des informations sur le site IATA qui a été sympa de relayer le, un peu le, les informations concernant mon cas. Il y a une pétition aussi sur, sur le site WeSignIt.
Alors, donc, c'est refus du fichage ADN solidarité avec Fabien.WeSignIt. WeSign.it. /fr, on va y arriver.
C'est ça.
L'adresse est un petit peu longue. Ouais. Donc il y a ces actions là qui ont été
qui ont
déjà
été mises en place.
Mises en place. Et puis avant le procès du 1er mars, il y a des petits rendez-vous qui sont proposés à la fois pour en autodéfense juridique, c'est ça ?
Il y a une volonté voilà de se former. Donc pour l'instant on est en train de mettre ça en place. Donc tout figurera ensuite, on essaiera de faire passer les liens, de faire passer les infos. Sur, l'objectif, c'est essayer de faire des débats dans les lieux collectifs qui existent dans le coin. Donc il y a plein de lieux qui fonctionnent en autogestion, assez collectifs, qu'on essaye de faire vivre et dans lesquels il y aura ces débats. Peut-être, voilà, il y aura sûrement des ateliers d'autodéfense juridique, c'est-à-dire savoir faire face à une garde à vue, être efficace en manifestation, ne pas tomber dans les pièges de la police, que faire face à la justice quand on se retrouve au tribunal, refuser les comparutions immédiates, tous ces petits réflexes à avoir quand on décide de s'opposer un peu aux inégalités sociales et à tout ce qui nous touche. Et il y a une volonté aussi de projeter. Il y aura sûrement le film 317 qui sera projeté au cinéma Le Régent, donc je communiquerai la date un peu plus tard. Là, c'est en train de se formaliser. Donc ce documentaire, là, vous avez dû parler peut-être sur la question des arrestations pendant la COP21.
On avait passé la bande-annonce.
D'accord.
Et puis donc la mise en place d'ateliers d'autodéfense juridique.
Voilà, c'est ça.
Alors toi, depuis que ce méfait t'est arrivé, du coup, tu as fait appel à un avocat.
Ouais.
J'imagine que tu avances les frais jusqu'à présent.
Là, pour l'instant, là, j'ai droit à l'aide juridictionnelle. T'as donc ça déjà, c'est une pression financière de moins, parce que bon, après, voilà, la justice, c'est les frais d'avocat. Bon, en correctionnel à Toulouse, la dernière fois, voilà, il y avait des frais, il y avait les frais de justice aussi, il peut y avoir des amendes. Donc il y a vraiment cette optique de faire une caisse de lutte là, sur Saint-Gaudens pour permettre d'aider les personnes qui seraient condamnées, qu'ils soient militants ou pas. Hein, de toute façon, c'est tout le monde risque de tomber face à la justice à un moment ou à un autre. Donc voilà, il y a ce soutien qui va s'organiser aussi sur la ville de Saint-Gaudens.
Et alors, est-ce que tu t'es rapproché pour voir un petit peu ce qui était, j'imagine, pour voir les différentes peines et dans les différents cas, tu t'es rapproché de gens à qui c'était déjà arrivé ?
Oui, il y a une personne de Toulouse ouais, avec qui on va se mettre en réseau, qui est suivi par un avocat sur Toulouse pour ses affaires. Après, moi, j'ai été contacté par la LDH de Toulouse, qui a mis
son... La LDH, c'est ?
La Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme.
Voilà, qui a bossé pas mal sur cette question, avec une avocate qui s'appelle Maître Nakache, donc qui a donné des éléments à mon avocat, qui est sur Saint-Gaudens. Après, voilà, c'est que des contacts. Il y a le paysan basque qui a poussé jusqu'à la Cour européenne et qui a permis justement que la Cour européenne condamne l'État français sur les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en réseau aussi, donc avec son avocate. Donc voilà, c'est important de ne pas être isolé dans ces affaires-là, de voir ce qui s'est fait, ce qui a fonctionné. Après, voilà, la Cour européenne a condamné l'État français, mais l'État français, au niveau du droit, continue à demander le prélèvement, à condamner un peu tout le monde sur les mêmes bases, n'a pas pris en compte pour l'instant les demandes de la Cour européenne des droits de l'homme.
On comprend bien tout simplement qu'entre des personnes qui sont impliquées dans des délits de crimes sexuels et des personnes qui sont impliquées dans une simple, dans un simple échauffouré en manifestation, il y a quand même une grande différence. Or, les affaires sont finalement traitées un petit peu de la même façon. On va jusqu'à te poursuivre un an et quelques après pour aller chercher ton ADN.
C'est ça.
C'est un peu démesuré, en fait. On comprend pas bien la différence de traitement.
Voilà. Là, c'est un peu ce qui a été apporté par la Cour européenne sur la question de la disproportion du traitement en fonction de la gravité des infractions. Mais je pense que la classe populaire est amenée à est jugée coupable et suspecte de pouvoir faire n'importe quelle infraction. Je sais pas, il y avait une phrase qui disait un peu quand... Les petits criminels, les grands criminels commencent par des petits délits, quelque chose comme ça qui avait été amené par des politiciens. Donc il y a vraiment cette volonté-là de pouvoir aussi créer une autoroute pour la justice, c'est-à-dire que l'ADN, c'est quelque chose qui maintenant est une preuve quasi irréfutable, c'est-à-dire une preuve qui suffit à elle-même. On ne fait plus appel aux aveux, on ne va pas essayer de chercher plus de preuves que ça. Il y a souvent, on voit plein d'affaires judiciaires où c'est l'ADN à parler. Et du coup, des personnes qui sont condamnées, et beaucoup d'erreurs, donc des personnes en Amérique dans les années 2002, et des personnes qui ont été condamnées à 4 ans de prison, et qui sont sorties après parce que leur ADN avait été... Il y avait eu une erreur, en fait, dans le traitement, et du coup, c'est des personnes qui font des années de prison. En France, il y a eu pareil, il y a eu des cas à Toulouse, il y a une personne qui a été placée à tort, du coup, en prison pour un meurtre en 2007. Elle a passé, je crois... quelque chose comme presque 2 ans en prison, parce que les séquences ADN, des fois, peuvent être similaires à des séquences ADN d'une autre personne, d'une autre famille. Il y a des fois, des ADN se ressemblent. Donc,
donc en plus, ça devrait être traité avec beaucoup plus de précautions, en fait, dans ces cas-là.
Mais comme tout progrès technique, on s'en empare directement, on juge, on profite, on envoie, c'est un peu... Et après, il y aura de la critique peut-être des années plus tard, ou peut-être pas. Hein. De toute façon, la machine judiciaire fonctionne. Et donc, voilà, l'ADN, c'est quelque chose qu'on laisse... présentement, là, je dois laisser des cheveux, je dois laisser des trucs. On laisse des traces de nous, on transporte des traces d'autres personnes un peu partout. Et sur une scène de baston, on peut se retrouver inculpé à tort, quoi. Ou alors, par exemple, je sais pas, un exemple... Exemple bête, tu viens de boire une canette de bière, tu la mets dans la rue, il y a une manifestation, la canette est finie. Bon, j'ai un exemple au hasard dans la tête d'un flic. Du coup, ton ADN est examiné, tu peux te retrouver au poste à devoir te justifier sur ça. Donc c'est quelque chose qui est une espèce de boulevard au niveau du contrôle social et au niveau du contrôle judiciaire qui est vers lesquels la justice veut s'engouffrer, évidemment, quoi.
Qui devrait être pris avec beaucoup plus de mesures et pas étendu, parce que ça peut être utile. Oui, on peut pas nier que ça peut être utile, mais qui devrait pas être étendu à l'ensemble des délits. Qui devrait être utilisé avec parcimonie dans certains cas et pas d'autres. Et surtout, tenir compte de notre liberté, puisque quand même, là, c'est aussi en ça que ça avait été accusé par l'Europe, c'est que du coup, ça enfreint liberté.
Un article fondamental des libertés individuelles. Bon, on en perd de plus en plus des libertés individuelles, donc il y a cette logique de société là, c'est super sécuritaire, donc c'est quelque chose qui, c'est pour moi, au niveau de la défense, de toute façon, ça sera sur la question de l'acharnement contre les militants politiques, mais faut pas se méprendre sur le fait que c'est beaucoup plus large, quoi. C'est pas forcément que les militants, c'est les gens les plus pauvres, c'est tout le monde, hormis les cols blancs, quoi, qui sont concernés par cette question de fichage. C'est important de faire le lien dans sa globalité, en fait.
Et donc toi, du coup, cette affaire qui s'est déroulée au 16 novembre dernier, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision des choses? Est-ce que ça a fait bouger quelque chose chez toi?
Pas plus que ça, non. Sur ma vision de comment ça se passe en garde à vue, de comment sont gérés les gens, du mépris des policiers, parce qu'il y a un mépris politique, je pense. En fait, moi, sur ma vision, je savais déjà qu'il y avait un peu de contrôle, du suivi pendant les manifestations, des contrôles d'identité, des flics en civil qui t'épient. Donc je ne suis pas tombé sur le cul quand je me suis fait arrêter. Hein. Je me dis qu'après, c'est une possibilité déjà pour tout militant, pour moi, avec l'état d'urgence et avec toute le boulevard qui est fait qui est ouvert à la police et à la justice pour, sous prétexte d'antiterrorisme, pour fliquer les militants et les personnes qui s'opposent. Donc voilà, on sait ce que ça a causé. Donc non, on s'attend à finir en garde à vue avec le mépris des flics. Moi, c'est pas juste quelqu'un qu'on va attraper, tu signes un papier, tu refuses, on te stipule comme quoi tu es en procès, et puis c'est très administratif, non, là, avec une optique de casser un peu les personnes, quoi, par ce biais-là, quoi. Et un mépris policier clairement affiché que je peux dénoncer. Après, évidemment, c'est ma question de ma bonne foi. Il y a des injures, c'est juste de l'oral, quoi. Un outrage de la part d'un agent, c'est pas un outrage. Un outrage de ma part, ça l'est et ça finit en procès.
Voilà, c'est pas la même chose.
Non.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne?
Pour ajouter quelque chose, voilà, je ferai passer les informations par le biais de Canal Sud aussi, ou des Sitiata, voilà, sur les questions de ce qui va se passer ensuite à Saint-Gaudens pendant les 2 mois, donc il va y avoir des choses qui vont évoluer. Les questions de lutte, elles se poursuivent. Il y a toujours des luttes sociales, il y a toujours les luttes pour le compteur Linky qu'on essaye de faire sur Saint-Gaudens pour refuser ces compteurs qui, encore une fois, font aussi partie d'une volonté de contrôle, quoi, contrôle des masses, de surveillance, avec des compteurs soi-dit intelligents. Et du coup, voilà, nous, on appelle à refuser ces compteurs. On fait des réunions très fréquentes, tous les 15 jours. Là, il y en a une le 3 janvier au Régent, à Saint-Gaudens, donc c'est à partir de 18h. Donc c'est des réunions populaires où il n'y a pas de spécialistes. On est là pour faire des ateliers, pour s'auto-organiser, pour ne pas être isolé et pour pouvoir refuser en masse ces compteurs électriques. Donc voilà, tout se poursuit aussi. Il n'y a pas que la lutte anti-répressive, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles la justice nous amène pour que on perde un peu de temps aussi, on passe un peu de temps, mais il faut continuer à poursuivre les luttes que l'on mène et on continuera à faire passer les infos dans ce sens-là.
Merci Fabien, on rappelle que pour signer la pétition, on peut aller sur wesignit.fr, refus du fichage ADN, solidarité avec Fabien. Merci d'être venu dans les studios de Canal Sud.
Merci.